Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Pays de 17 millions d'habitants auquel s'ajoute une diaspora de 2 millions d'équatoriens répartis essentiellement entre l'Espagne, l'Italie et surtout les États-Unis, notamment dans l'état de New York, coincé entre le Pérou au sud et la Colombie au nord, l'Équateur, pays d'Amérique latine le plus touché en proportion par le coronavirus, élira dimanche son prochain président et renouvellera les 137 membre de son Assemblée nationale. Le chef de l'État sortant, Lénine Moreno, ne se représente pas. La présidentielle doit définir si le corisme revient au pouvoir, alors que l'ancien chef de l'État, Rafael Correa, condamné à 8 ans de prison, n'a pu s'y présenter. Il habite désormais en Belgique et reste l'ombre titulaire de la gauche équatorienne 4 ans après son départ. Son dauphin, Andrés Arauz, est en tête des intentions de vote. Son espoir est de gagner dès le premier tour devant le banquier et homme d'affaires Guillermo Lasso, issu du mouvement libéral conservateur. Le leader et militant indigène Yacu Pérez arriverait troisième. L'élection présidentielle de dimanche, un référendum sur Correa, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. En studio, Emmanuel Sinardet, professeur de civilisation latino-américaine à l'Université Paris-Nanterre, responsable du Centre d'études équatoriennes. Bonjour.
Bonjour.
Par téléphone, Olivier Dabène, professeur de sciences politiques à Sciences Po, chercheur aux séries et président de l'Observatoire politique Amérique latine et Caraïbes. Bonjour.
Bonjour.
Et depuis l'Équateur, Guillaume Long, analyste au Center for Economic and Policy Research, le CEPR à Washington et ancien ministre des Affaires étrangères d'Équateur. Bonjour.
Bonjour.
Guillaume Long, puisque nous vous avons sur place, en direct dans cette émission, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la façon dont se présente l'élection présidentielle de demain, élection législative également ?
Écoutez, c'est une élection, comme vous l'avez dit, qui se situe dans un contexte très polarisé, donc fondamentalement entre coréisme et anticoréisme, hein, qui sont deux secteurs politiquement mobilisés de la société équatorienne, avec 16 candidats, mais trois candidats en tête, vous les avez nommés, et disons un candidat du coréisme qui est quand même assez loin, enfin de se distancier de ses rivaux, qui sont Guillermo Lasso et Yacu Pérez. Il s'agit de voir si Andrés Arauz peut gagner dès le premier tour. Mmh. Donc, pour ce faire, il faudrait qu'il ait ou bien 50% des voix, ce qui est peu probable d'après les sondages, ou bien 40% avec 10 points d'avance sur son rival le plus proche, sur le deuxième candidat le plus voté. Les sondages sont ce qu'ils sont, mais en général, je pense qu'on peut parler, et d'ailleurs, la dernière décennie, on peut parler d'un champ politique divisé grosso modo en trois tiers. Un tiers coréiste, donc qui sont les gens qui sont proches de l'ancien président Rafael Correa, qui croient en son projet politique. Un tiers, donc plus ou moins grand, hein, c'est pas évidemment exact, anticoréiste, qui sont très opposés à Rafael Correa et cette décennie appelée Révolution citoyenne. Et puis le tiers du milieu, qui sont le tiers des indécis. Et on voit dans les sondages pour les élections de dimanche qu'il y a encore, la veille des élections, un grand nombre d'indécis. Alors ça change selon les sondages, mais enfin c'est certainement la bataille pour les indécis. Ces élections ont été marquées pour cette bataille pour le vote des indécis. Le récit des uns est opposé au récit des autres. Donc le récit de l'anticoréisme est que la décennie de la présidence de Rafael Correa a été marquée par, je simplifie, l'autoritarisme et la corruption. Et le récit de ceux qui soutiennent le président Rafael Correa et donc son candidat, son dauphin Andrés Arauz, est que ça a été une décennie marquée par le progrès économique, social, pendant laquelle on a doublé le PIB, mais aussi on a énormément réduit la pauvreté, les inégalités, et il y a eu des grandes conquêtes en termes de droits fondamentaux des Équatoriens. Donc ce sont deux récits qui s'opposent. D'un côté, la droite et les médias qui font une campagne très très forte contre le coréisme, et de l'autre côté, un mouvement politique quand même assez important, avec une pénétration territoriale assez importante, qui revendique au contraire le coréisme. Alors, on verra demain, mais il est certain que le coréisme va arriver loin en tête. Est-ce que le coréisme aura le 40% dont il a besoin pour gagner les élections au premier tour, ou est-ce qu'il y aura un deuxième tour contre M. Lasso ou M. Pérez. Nous saurons ça dimanche soir.
Alors, Emmanuel Sinardet, Guillaume Long le disait, deux récits qui s'opposent. La société équatorienne est une société très, très polarisée. Il y en a un dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, c'est le président sortant, Lénine Moreno, qui était le candidat de Rafael Correa aux élections de 2017 et dont la politique a totalement dévié.
Alors en effet, il y a deux récits et deux positions extrêmement polarisées. On va dire que Lénine Moreno met tout le monde d'accord contre lui. Je crois que de toute l'histoire de l'Équateur, aucun président n'a atteint des taux, on va dire, d'appréciation aussi bas, je crois moins de 10%. À la sortie des mouvements de mobilisation sociale contre ces réformes en octobre 2019. Bien. Alors en effet, il a d'abord été élu porté par le parti qui était celui de Rafael Correa, c'est-à-dire Alianza País. Il s'est présenté comme le dauphin et le continuateur du projet coréiste. Et puis, assez rapidement, il a pris des distances, d'abord dans un discours extrêmement critique sur le bilan qu'il aurait reçu, dénonçant donc un très mauvais bilan économique et de nombreux déficits qui l'ont poussé, d'après lui, donc à accepter de négocier avec certains organismes internationaux et présentement avec le FMI.
Le Fonds monétaire international.
Donc, il y a eu un retour à des pratiques qu'on peut qualifier néolibérales autour de la nécessité de mener une politique d'austérité et notamment d'ajustement structurel en fait. Ça, c'est une terminologie qui rappelle pour les coréistes la longue nuit néolibérale selon l'expression de Correa. Hein, c'était une politique qui avait prévalu dans les années 90 et encore au début des années 2000. Et c'est notamment une série de mesures, mais particulièrement sur les demandes du FMI, l'augmentation du prix de l'essence qui a mis le feu aux poudres en quelque sorte et a été à l'origine d'un mouvement social, deux mouvements sociaux en fait qui se sont agrégés. D'abord, c'était un mouvement venu du secteur du transport, des taxis, des chauffeurs de taxi, puis des coopératives de bus. Hein. Je rappelle qu'en Équateur, le transport est essentiellement un transport terrestre, donc c'est véritablement un enjeu que le prix de l'essence. Ils ont été rejoints par différents acteurs du monde économique qui ont fait valoir que le prix, par exemple, des denrées allait augmenter auprès du consommateur final en raison de ce surcoût. Et puis, ils ont été rejoints par, et on en parle aujourd'hui, Yacu Pérez, par la CONAIE, les mouvements indigènes. Et c'est d'ailleurs la CONAIE qui a rapidement organisé les protestations de ce mouvement. Est issu aujourd'hui le candidat Yacu Pérez pour Pachacuti, qui est le parti politique de la CONAIE, de la Confédération des mouvements indigènes d'Équateur. Et aujourd'hui, Yacu Pérez capitalise sur ce protagonisme qu'il a eu au moment donc d'octobre 2019 et au moment de conduire de façon beaucoup plus unifiée un front commun contre les politiques de Lénine Moreno qui, en effet, a dû fuir, je parle de Lénine Moreno, avec son gouvernement pour se réfugier à Guayaquil. Il a donc quitté la capitale Quito pour trouver refuge à Guayaquil, ce qui a achevé, on va dire, de le décrédibiliser en tant qu'homme d'État.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Lénine Moreno, qui, Olivier Dabène, donc, ne se représente pas pour ce scrutin, c'est probablement qu'il a pris conscience de la très forte opposition qu'il y avait aujourd'hui dans le pays contre sa personne, Olivier Dabène.
Oui, exactement. C'est-à-dire il est perçu comme un traître par la base électorale de Corée, qui représente peut-être 20-30% de l'électorat, donc ça fait déjà pas mal. Et puis, il y a eu cet épisode des manifestations. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un petit peu une alternance juste après les élections, une alternance postérieure aux élections, parce qu'au moment où il est élu, avec la bénédiction de Correa, il est encore considéré comme correiste. Puis ensuite, il fait son virage à droite, comme on a connu dans certains autres pays d'Amérique latine ces dernières années. Toute la question est maintenant de savoir si finalement ce virage à droite va être encore davantage accentué par le candidat de droite ou non. Et avec au milieu ce Yacoupel, est-ce que vraiment la surprise, enfin, c'est une campagne qui est très intéressante pour ça, parce que l'Équateur, c'est pas un pays où un très grand nombre de citoyens s'auto-identifient comme étant indigènes, c'est pas la Bolivie. Et par conséquent, c'est assez surprenant de voir ce candidat écolo, qui a été un activiste contre les projets miniers de Correa à l'époque, qui a été président de la Confédération des nationalités indigènes, comme vient de le dire Emmanuel, et très impliqué dans les mouvements sociaux en 2019. Aujourd'hui, il est très très loin d'être ridicule dans les intentions de vote, et avec une petite chance d'arriver au second tour, ce qui serait quand même très surprenant, parce que la situation est très polarisée dans le pays, avec un vrai affrontement droite-gauche, mais avec, disons, un candidat Arauz qui est peut-être un petit peu débordé sur sa gauche par Yacu Pérez. Donc c'est la vraie surprise de cette campagne, parce que pour le reste, il y a effectivement 16 candidats, dont une seule femme, au passage d'ailleurs, il faut le préciser. La plupart vont être absolument inexistants en termes de pourcentage. Enfin, tout se joue entre ces trois candidats. Mais je reviens un petit peu en arrière. Le vote, il est obligatoire en Équateur, si je ne me trompe pas. Donc, il y a effectivement, selon les sondages, entre 30, 40 ou plus pourcents d'indécis. Donc, ces gens-là vont aller voter quand même. Donc, il peut encore se passer pas mal de retournements, pas mal de choses surprenante, même si c'est vrai que dans tout ça, l'électorat de Arauz, il est stabilisé aux alentours de 20-30%. Donc là, ça devrait lui garantir sa place au deuxième tour sans problème. Mais qui sera en face de lui, ça c'est pour le coup encore incertain.
Incertain, donc, entre l'homme d'affaires que je citais en introduction, Guillermo Lasso. Alors, plusieurs choses par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Yacu Pérez, on peut juste préciser, et je parle évidemment sous votre contrôle à chacun, que le mouvement indigène en Équateur est le mouvement le plus important des pays d'Amérique latine, d'après ce que j'ai compris, peut-être concurrencé par la Bolivie, c'est à voir. En tout cas, on fait souvent un parallèle avec ce qui se passe en Bolivie. Alors, Guillaume Long, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de Rafael Correa, du correísmo? Le correísmo, qu'est-ce que c'est? Alors, peut-être on démarre par la personnalité de Rafael Correa, je l'ai dit, condamné à 8 ans de prison. Il vit en Belgique parce que sa femme, son épouse est belge. Un personnage qui polarise aussi la société équatorienne. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de Rafael Correa dans ce scrutin? Guillaume Long.
Écoutez, je pense que la figure de Rafael Correa va jouer un rôle évidemment très important dans l'élection de dimanche. C'est le personnage central. Vous avez dit dans votre introduction, c'était un peu un référendum sur sa décennie au pouvoir. Il est clair qu'il est vraiment le grand homme politique de sa génération. Et il est au centre de cette campagne. Andrés Arauz, son candidat, évidemment, fait une campagne où il essaye de rendre M. Correa le plus présent possible dans sa campagne, dans les salons, même s'il est absent, puisque M. Correa est en Belgique. Mmh. Et l'opposition, pareil, l'opposition, c'est-à-dire l'opposition au correísmo, la droite, disons, pas forcément l'opposition à M. Moreno, mais Correa au centre. Alors évidemment, d'une façon critique, en l'accusant de toute chose, il a été devant les tribunaux, vous l'avez dit, il a été condamné à 8 ans de prison et 25 ans sans droit politique, dans un procès qui est quand même a été très très critiqué, qui était assez expéditif, puisque son appel a été réglé, je crois que c'est l'appel qui a été réglé de façon plus expéditive de l'histoire de la justice équatorienne. En 17 jours, son appel a échoué pour qu'il ne puisse pas être candidat, fondamentalement. Monsieur Moreno avait déjà réussi à changer la constitution pour que Monsieur Correa ne puisse plus être candidat à la présidence, mais Monsieur Correa aurait pu peut-être être candidat à la vice-présidence, il y avait un débat constitutionnel à ce sujet, et certainement candidat à l'Assemblée nationale. Donc, évidemment, la présence du candidat Correa, même si ce n'aurait pas été à la présidence de la République, il aurait été présent sur le sol équatorien, il aurait fait campagne, enfin, il aurait été, ça aurait énormément mobilisé les forces du correísmo. Donc, finalement, l'appel a été réglé de façon assez expéditive, un record de rapidité dans un système judiciaire qui est quand même connu pour ne pas être très, très efficace, et il a été bloqué, il est en Belgique, il peut revenir. Il faut quand même dire que les cadres du coréisme, les dirigeants principaux du coréisme, ont été quand même énormément persécutés ces dernières années. Il y en a beaucoup qui sont en exil, hein, un nombre important au Mexique, mais aussi dans d'autres pays du monde. Il y en a qui ont subi des procès. Alors au début, les premiers mois de Moreno, c'était des procès du type procès anticorruption, comme on a vu au Brésil contre certains dirigeants, notamment Lula, comme on a vu en Argentine, etc., ce que la gauche dénonce comme le lawfare, non, l'instrumentalisation de la justice contre ses dirigeants. Mais à partir des grandes manifestations d'octobre 2019, on voit les procès contre les dirigeants coréistes changer de nature, et on voit des procès de nature beaucoup plus politique, avec des procès pour rébellion, pour sédition, enfin vraiment ça devient des procès qui sont de plus en plus politisés. Et je pense que vous parliez de la figure de Rafael Correa, il a été énormément affaibli les premières années de Moreno, de Monsieur Moreno, qui a fait ce volte-face et qui a les premiers mois réussi un peu à convaincre peut-être une partie importante de l'électorat équatorien qu'il avait reçu ce pays des mains de son ami, Monsieur Correa, et qu'il s'était pas rendu compte à quel point le pays était dans une situation désastreuse. Mais au bout de 4 ans, je crois que ce récit s'essouffle, hein, surtout si Moreno avait eu du succès, mais là, Monsieur Moreno a entre 5 et 7% dans les sondages d'appui populaire. C'est le gouvernement le plus impopulaire depuis le retour de la démocratie en 1979. Donc sa légitimité dans son attaque à Correa s'est affaiblie, et c'est évidemment accompagné par une croissance ces derniers mois du coréisme que l'on voit maintenant dans les sondages, avec, je pense, quand même des possibilités très importantes d'une victoire même dès le premier tour, et puis peut-être même au deuxième tour de son dauphin Andrés Arauz.
Alors, croissance du coréisme, Emmanuel Sénardet, en tout cas, il y a, juste pour revenir à la condamnation de Rafael Correa à 8 années de prison, le mot corruption est un mot assez tabou en Équateur. Il a été condamné, je reprends ce que cite Guillaume Long dans un article au Monde Diplomatique, condamné pour influence cognitive.
Alors, c'est ce qu'on appellerait peut-être en France du trafic d'influence, dans une série de financements du parti Alianza País. Et donc, c'est ce qu'on appelle des casos sobornos en Équateur, et plusieurs cadres de Alianza País ont été d'ailleurs jugés, hein, et condamnés. Et condamnés durement, puisque à l'issue des jugements, ils sont déchus de toute possibilité d'exercer une charge dans la vie publique. Et on en est aujourd'hui à cette situation où Rafael Correa fait campagne finalement en faveur de son dauphin depuis la Belgique à travers les réseaux sociaux. Arauz, qui s'appuie sur la figure de Correa, souvent le montre sous la forme de carton en taille réelle pour marquer sa présence. Correa est même apparu dans des hologrammes aux côtés de Arauz. Donc, il ne peut même pas, en réalité, Correa, devenir conseiller. Toute charge publique est interdite, et il en va de même donc à toutes ces personnes qui sont condamnées dans des cas de corruption. Mais le mot corruption est extrêmement présent dans les 3 thèmes qu'on peut dégager récurrents chez tous les candidats. Il y a la question de la corruption. Alors tous entendent lutter contre la corruption. Comment ? Avec quelles mesures concrètes ? Les lecteurs peinent à le comprendre, hein, mais c'est vraiment un axe de campagne. Le deuxième, c'est la question du chômage et la question économique, évidemment, comme conséquence de la pandémie. Et enfin, le troisième, qui est apparu il y a peu de temps, il y a quelques jours, à la suite d'un meurtre en pleine rue à Guayaquil, d'un présentateur de télévision extrêmement populaire, Efraín Roales, c'est la question de la sécurité, qui a fait un retour dans le débat public lié à ces circonstances. Mais donc, la question de la corruption, en fait, est véritablement centrale, et ce qui explique aussi la dimension extrêmement clivante de Correa. Pour les uns, il est victime en effet d'une persécution. Pour les autres, et pas simplement de la part de l'énigme Moreno, hein, qui en effet a peu de légitimité pour accuser peut-être Correa de corruption, mais de la part de tous les autres candidats opposés au coréisme, il s'agit bien, en disqualifiant la figure de Correa, de lutter, déjà de commencer à lutter contre la corruption.
Alors Olivier Dabène, je voulais revenir avec vous sur la notion du vote obligatoire mouchoir en Équateur, et puis cette élection présidentielle de demain dimanche qui se tient en pleine pandémie du coronavirus. On n'a pas le temps dans cette première partie d'émission, mais on vous retrouve après le journal. À tout de suite, Olivier Demen avec Emmanuel Sinardet et Guillaume Long.
Ce dimanche, sur RFI, idée.
Le professeur émérite Jean-Clément Martin.
Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur l'Équateur. Nous retrouvons nos invités en studio. Emmanuel Sinardet, professeur de civilisation latino-américaine à l'Université Paris-Nanterre, responsable du Centre d'études équatoriennes. Olivier Demen, par téléphone, professeur de sciences politiques à Sciences Po, chercheur au CERI et président de l'Observatoire politique Amérique latine et Caraïbes. Et en direct depuis l'Équateur, Guillaume Long, analyste au Center for Economic and Policy Research, le CEPR à Washington et ancien ministre des Affaires étrangères d'Équateur. Olivier Demen, vous le disiez dans la première partie de l'émission, le vote est obligatoire en Équateur. Alors pour mémoire, élection donc présidentielle et législative demain dans ce petit pays d'Amérique latine, 17 millions d'habitants. Le vote est donc obligatoire. Il est évident que, et peut-être que Guillaume Long pourra intervenir ensuite, il est évidemment compliqué par la pandémie et une organisation assez stricte de ce scrutin de demain à cause de cette Covid-19.
Oui, bien sûr, c'est effectivement pas les meilleures conditions pour organiser une élection de cette importance, mais au moins l'Équateur a eu le mérite de ne pas repousser ces élections, comme ça on l'a vu dans plusieurs pays au cours de l'année qui vient de s'écouler en 2020. De toute façon, un vote obligatoire ou pas, je pense que ce scrutin se traduirait par une forte participation, tout simplement parce qu'il est extrêmement polarisé, avec beaucoup de violence dans les propos et des accusations qui sont envoyées aux uns et aux autres. Je pense en particulier à cet article qui est sorti dans la presse colombienne concernant un financement de la campagne d'Arauz par l'Armée de Libération Nationale, la guérilla colombienne. Donc, tous les coups sont permis maintenant. On imagine que ce sera entre les deux tours, ce sera encore pire. Mais je voulais juste signaler une chose, ça pourrait être aussi intéressant pour éclairer cette élection, de se rappeler de ce qui se passait avant Correa, c'est-à-dire toute cette tradition d'incroyable instabilité politique, d'un pays qui était fracturé de façon géographique et politique, très fragmenté, avec beaucoup de partis politiques, tout ça. Correa, c'était presque une parenthèse. Pendant une dizaine d'années, il y a eu beaucoup de stabilité et finalement une certaine hégémonie politique de Correa. Mais on est en train de revenir à ce qu'était l'Équateur avant, c'est-à-dire un panorama politique très, très fragmenté, polarisé, mais néanmoins très fragmenté, avec beaucoup de partis politiques. Et ça s'annonce difficile, quel que soit le prochain président. Il aura du mal à avoir une majorité consolidée au Parlement pour gouverner. Donc, c'est pas une très bonne nouvelle pour la stabilité politique de ce pays.
Alors, l'élection de Correa, dont on peut rappeler juste, puisque vous disiez qu'il s'inscrivait dans un contexte particulier avec davantage de stabilité, on se situait là, donc, pour cette période avant 2006, étant l'année de la victoire de Correa en Équateur. Guillaume Long, un commentaire sur la façon dont le scrutin sera organisé demain dans ce contexte de pandémie, et ça va nous permettre de parler un petit peu des conséquences de la pandémie aujourd'hui en Équateur, pays parmi les plus touchés. Alors la presse occidentale a eu ces images terribles de corps gisant dans les rues de Guayaquil. Qu'est-ce qu'il en est, Guillaume Long ?
Oui, alors juste avant, je voudrais rebondir un peu sur ce que disait Olivier Demen sur ce retour un peu à l'instabilité politique équatorienne. Je suis tout à fait d'accord avec cette hypothèse. Il me semble que Rafael Correa était le grand refondateur un peu de la nation équatorienne au sens un peu classique du terme, avec un processus constituant, 10 ans de présidence, qui ne s'était jamais produit dans toute l'histoire de l'Équateur. Il y a eu en Amérique latine une histoire de grands processus autoritaires, de grandes dictatures. En Équateur, il y a certainement eu des dictatures, bien sûr, mais ça a été plus marqué par l'instabilité politique que par les dictatures sur le long terme. C'est la première fois dans l'histoire de l'Équateur, j'insiste, qu'il y avait un gouvernement qui durait 10 ans. Alors, il y a eu des dirigeants qui ont duré plus de 10 ans, comme Velasco Ibarra au XXe siècle. Il a gouverné 13 ans, mais c'est toujours morcelé. D'ailleurs, il a gouverné 13 ans sur 5 périodes, donc il a toujours été renversé, etc. Et c'est vrai qu'entre 1996 et 2006, le Correa a été élu en 2006, il y a eu quand même 7 présidents en 10 ans, dont une junte d'une nuit. Enfin, c'était vraiment une grande instabilité. Donc, Correa, qui était élu en 2009 et en 2013 au premier tour, en 2013 avec 57% des voix dès le premier tour, représentait un peu cette stabilité politique. Et oui, je suis d'accord avec Olivier Demen, une certaine hégémonie politique. Alors là, maintenant, elle s'est effondrée, surtout avec les premières années du gouvernement Moreno, qui a fait mainmise sur le parti de Correa. Il y a eu toute cette persécution des dirigeants coréistes. Vous parliez du scrutin de demain, la pandémie. Tintin est quand même assez particulier, puisque depuis 2018, il y a eu un processus que le gouvernement lui-même a appelé un processus de décoréisation. Hein, c'était vraiment leur slogan. Et il fallait purger le système judiciaire, les différentes instances pour des comptes, le procureur, les différentes instances indépendantes de la justice équatorienne, de ces influences coréistes. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant 2-3 ans, et ça a eu un énorme impact sur l'indépendance des institutions, et notamment sur l'indépendance de l'institution électorale, le Conseil national électoral, qui est très critiqué aujourd'hui parce qu'elle est très faible, parce qu'elle est victime de chantage, elle est victime d'intimidation. Il y a encore aujourd'hui une menace qui pèse sur ce Conseil électoral. 4 de ses 5 membres pourraient être déchus. Donc évidemment, quand on organise une élection avec la menace d'être déchu et de perdre son immunité, ça veut dire que cette institution électorale est très fragile, victime de toutes sortes d'influences. Et on a vu quand même jusqu'à la dernière minute des tentatives de la part du gouvernement de reporter les élections, de repousser les élections. Alors le prétexte de la pandémie a été énormément utilisé. Enfin, jusqu'à la semaine dernière, il était question que toutes les personnes qui font partie de l'organisation électorale, les personnes qui sont physiquement présentes je sais pas comment on appelle ça en français, aux messas électorales, aux endroits où on vote, devaient avoir des tests PCR. Oui, les bureaux électoraux devaient avoir des tests PCR. En 2 jours, il aurait fallu faire plus de tests PCR que ce que l'Équateur a réalisé depuis le début de la pandémie, depuis février 2020. Donc, évidemment, le processus aurait pu s'écrouler parce que les gens n'auraient pas pu assumer cette responsabilité. Donc, il y a une énorme fragilité de ce processus électoral. Monsieur Arauz lui-même, le candidat du coréisme, a été accepté le 25 décembre pour l'élection du 7 février. Il y a eu plusieurs appels pour essayer de l'empêcher d'être candidat, alors que le reste des candidats ont été inscrits entre septembre et octobre. Alors ça ajoute à ce climat de polarisation, puisque évidemment, les coréistes décrivent le fait qu'ils sont dans une situation de désavantage. On parlait de la centralité de la figure de Coréa. Bon, Coréa vient d'être censuré dans sa figure, dans les spots publicitaires, les spots politiques. Il y a interdiction aujourd'hui d'avoir la figure de Coréa dans les spots, et même la voix de Coréa est interdite. Donc c'est quand même une censure importante qui fait que les coréistes, évidemment, décrient une élection injuste, des conditions qui lui sont contraires.
Alors évidemment, avec tout ce que Guillaume Long vient de décrire, Emmanuel Sinardet, on peut constater donc ce climat politique très houleux. On cherche les voyants verts concernant l'Équateur. On a un peu du mal à les trouver. La pandémie de Covid-19 y a été particulièrement sévère. Il y est particulièrement sévère. La récession économique est là. Le chômage au plus haut niveau et le sous-emploi frôle le quart de la population. Voilà, c'est un peu le contexte économique dans lequel tout cela se déroule. On parlera bien sûr ensuite de la Chine et des États-Unis. Mais pour commencer, ce contexte économique, Emmanuel Sinardet.
Oui, il est même assez dramatique. Il convient de rappeler qu'une grande partie de la population plus vulnérable vit au jour le jour de petits métiers qui échappent d'ailleurs à une économie, on va dire, officielle. Et les restrictions sanitaires ont eu pour effet immédiat de les priver d'une ressource qui permet d'apporter le soir sur la table familiale le repas. D'après la Banque mondiale, en effet, l'Équateur serait le 3e pays le plus frappé par le premier confinement déjà en termes économiques. On parle, je crois, en 3 mois de 2 millions de personnes basculant dans la pauvreté alors qu'elles en étaient sorties pendant la décennie Coréa. Donc les effets sont dramatiques et sont immédiatement visibles. Il a été d'ailleurs assez difficile d'appliquer certaines mesures de restriction sanitaire et notamment de confinement, puisque pour certaines familles, c'était absolument une question de survie, d'aller travailler et souvent de travailler dans la rue. Donc la situation est absolument dramatique, ce qui explique que l'une des premières attentes des électeurs soit la voie vers une solution, en tout cas une sortie de crise. Or, il faut bien dire que, et ça explique aussi le taux élevé des indécis, entre 25 et 37%. Je veux dire, le premier parti, si on doit dire dans les intentions de vote, c'est le parti des indécis, donc qui ne savent pas pour qui voter, qui ont dit qu'ils votaient nul ou qu'ils voteraient blanc. C'est pour ça, moi, je pense vers l'hypothèse d'un second tour le 11 avril, en raison de ces indécis. Et la première attente est une sortie de crise en termes économiques. Et il faut bien dire que les candidats, en la matière, sont peu rassurants, ce qui explique aussi un vote obligatoire, mais des électeurs qui n'attendent plus rien, finalement, de la politique.
Olivier Dabenne, je vous donne la parole, parce que je sais que vous devez nous quitter assez rapidement. Donc, priorité pour une sortie de crise aujourd'hui en Équateur.
Oui, bien sûr. Cela dit, l'ampleur de la catastrophe sociale, économique, sanitaire, etc. Je suis pas certain qu'il y ait un poids politique lors de cette élection, parce qu'en fond, tout le monde veut sortir de la crise. Tous les candidats en parlent. Évidemment, ils ont différentes façons de l'envisager. Et c'est là qu'il y a un vrai clivage droite-gauche qui est tout à fait intéressant, parce que c'était pas si fréquent ces dernières années. Donc, il y a un vrai clivage sur comment en sortir, mais tout le monde veut en sortir. Donc, c'est pas ça qui va déterminer, à mon avis, le résultat. Le résultat, c'est plutôt pour ou contre l'héritage Correa et pas tellement, finalement, un impact direct de la crise sanitaire.
Merci, Olivier Dabenne. Guillaume Long, un commentaire peut-être sur le contexte économique, et après ça j'aimerais qu'on parle du rapprochement finalement qui s'est opéré tout de même sous la présidence Moreno avec les États-Unis. Question, est-ce qu'il va se confirmer ce rapprochement avec la nouvelle administration de Joe Biden, et quelques mots sur la relation avec la Chine. Ça fait beaucoup de choses, mais rapidement, pour qu'il y ait un dialogue entre vous et Emmanuel Sinardet sur ces questions, Guillaume Long.
Écoutez, je pense que la question économique joue un rôle très important. 2020 est l'année avec le plus grand taux de décroissance depuis qu'on a des chiffres, hein, depuis 1927. Le FMI parle de moins 11%, la Banque centrale équatorienne parle de moins 8,7%, moins 9%. Donc de toute façon, dans les deux cas, c'est une décroissance terrible. Et je pense que c'est pas une coïncidence que le coréisme ait choisi un candidat qui soit un économiste. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce que pendant ces décennies néolibérales dont on parlait, les années 80-90, la gauche perdait le débat, je pense qu'on peut le dire, en Amérique latine, contre l'orthodoxie plutôt néolibérale, contre l'austérité. La gauche n'avait pas vraiment un programme économique très fort et perdait souvent aux urnes. L'opinion publique ne la suivait pas dans son programme économique. Alors, c'est très intéressant de voir qu'en Équateur, la gauche choisit un économiste.
Formé au Mexique, pardon, je vous interromps deux petites secondes, formé au Mexique et non pas aux États-Unis, on est bien d'accord, Guillaume Long.
Non, il suit un doctorat au Mexique, là, actuellement, mais il a un bachelor en économie et en mathématiques de l'Université de Michigan aux États-Unis. Donc. Et c'est intéressant parce que c'était un profil assez technocratique, en fait, le profil d'Andrés Arauz, assez académique. Donc, c'est un du point de vue des Coréistes, c'est d'essayer de mettre en avant des compétences, une gouvernance qui est compétente, 10 ans de succès économique, etc., pour pouvoir sortir de la crise. Ce qu'on a retrouvé, d'ailleurs, en Bolivie, avec la candidature de M. Arce, qui était aussi, lui, un économiste de la gauche, du MAS, qui avait été ministre des Finances. Donc, c'est intéressant de voir que la gauche latino-américaine aujourd'hui, au lieu d'avoir un peu honte de son bilan économique, au contraire, le met en avant comme un atout électoral, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 20-30 ans. Alors évidemment, face à ça, il y a une autre version. Le candidat Lasso, lui, joue évidemment la carte de l'homme d'affaires, le banquier, etc. Donc évidemment, là, il y a une contraposition entre les deux versions de ce qu'il faut faire en matière économique, entre le coréisme, avec sa version peut-être plus keynésienne des choses, et la version de M. Lasso, qui est plus libérale. Alors au milieu, il y a Cupérez, on en a parlé. Par contre, bon, il a, en termes esthétiques, représente évidemment ce mouvement indigène, il a du succès avec le vote jeune, il est anti-extractiviste avec un message écologiste, mais le programme, il n'y a pas vraiment à l'appui. Donc peut-être qu'un des plafonds du candidat Yacu Pérez, c'est justement ce côté plutôt technique pour sortir de la crise. Bon, le programme économique de Yacu Pérez, l'esthétique politique de Yacu Pérez est à gauche, évidemment, mais le programme économique est éminemment néolibéral. Il veut retirer des impôts sur les flux de capitaux, etc. Enfin, toutes sortes de choses qui sont assez à droite. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut quand même dire que le mouvement indigène n'est pas homogène. Le mouvement indigène en Équateur, on a tendance, hein, parfois même en Europe aussi, mais tous les indigènes un peu dans la même catégorie, les indigènes votent de façon assez hétérogène. Alors, il y a quand même évidemment un vote indigéniste important, mais le mouvement indigène est divisé et M. Yacu Pérez ne jouit pas des soutiens de toutes les factions dans la CONAIE et il est considéré comme étant plutôt un candidat, d'ailleurs imposé, mais assez à droite, mis à part, disons, son message, je dirais, qui provient d'une gauche assez identitaire, assez communautariste et certainement anti-extractiviste. Mais en ce qui concerne la politique économique, c'est clairement une politique économique plutôt libérale.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, Guillaume Long le disait, hein, décroissance prévue pour 2020 de 9% à peu près. On peut rappeler que l'Équateur est un pays producteur de pétrole, 500 000 barils de pétrole chaque jour. Évidemment, la chute des prix du pétrole a évidemment profondément affecté l'économie du pays. Emmanuel Sinardet, quelques mots sur le duel Chine-États-Unis. Comment ce duel se concrétise-t-il aujourd'hui en Équateur et quels espoirs pour l'Équateur peut-être que cette nouvelle administration Biden à Washington. On peut rappeler qu'il n'y a pas d'accord spécifique entre les États-Unis et l'Équateur, ce qui est assez rare. En revanche, des liens avec la Chine qui se sont tissés au fil des années et qui sont aujourd'hui très forts.
Alors tout d'abord, je pense que la question de la politique étrangère n'est pas un sujet pour les électeurs. Ils vont vraiment se décider sur des problèmes immédiats et intérieurs. Toutefois, justement, parmi les accusations de la part des anticoréistes contre le gouvernement, les gouvernements coréens, il y a l'idée que, au nom d'une sorte d'émancipation de la tutelle américaine et des organismes internationaux traditionnels, il aurait, entre guillemets, vendu le pays à la Chine. Puisqu'en effet, les capitaux chinois sont arrivés assez massivement en Équateur. Et c'est peut-être par ce biais-là que cette question des relations Chine-États-Unis peut revenir demain dans les urnes. Au-delà donc des relations Chine-États-Unis, il est vrai que l'élection de Biden suscite des espoirs, mais qui vont au-delà du clivage polarisé gauche-droite. Il s'agit, et c'était peut-être l'un des points forts en tout cas des gouvernements coréens, d'une certaine reconnaissance de l'Équateur, de sa valeur, de son importance, de ses identités au pluriel aussi. Et avec Trump, il y avait le sentiment qu'en fait, il y avait une arrogance états-unienne qui renvoyait à une tradition héritée de la politique étrangère états-unienne depuis la doctrine Monroe, et que Trump incarnait finalement un retour, peut-être pas concrètement d'interventionnisme, en tout cas d'un regard méprisant envers l'Amérique latine et l'Équateur en particulier. Donc avec Biden, ce qui est attendu, c'est presque en termes symboliques, un rééquilibrage dans les relations. Alors est-ce que cet espoir sera réalisé? Là est toute la question.
Guillaume Long, une réaction à ce que vient de dire Emmanuel Sinardet, ce sera finalement la conclusion de cette émission?
Oui, je pense qu'il est clair qu'il y a des enjeux géopolitiques très importants dans cette élection. La relation de Rafael Correa avec les États-Unis était parfois compliquée. Il y avait une base américaine, notamment en Équateur jusqu'en 2009, qui n'a pas été renouvelée. Rafael Correa a demandé à ce que les Américains partent de la base. Et puis après, il y a des relations parfois un peu houleuse, évidemment le cas Assange qui a quand même joué un rôle assez important, puis il y a eu aussi un conflit important entre l'État équatorien et l'entreprise Chevron Texaco pour contamination, pollution de bassin amazonien, donc il y a eu une relation assez difficile et évidemment la Chine à cette époque-là arrive en Amérique latine alors qu'elle avait été quand même très absente auparavant et un de ses partenaires stratégiques c'est l'Équateur, il y a une visite d'État pour la première fois dans l'histoire de l'Équateur du président Xi Jinping en novembre 2016, c'est vrai qu'il y a eu un énorme rapprochement. Alors, à quel point il y a eu une dépendance ou non, il y a tout un débat. La dette chinoise était 8% du PIB, alors que la dette totale équatorienne était autour de 40% du PIB quand M. Correa quitte la présidence. Bon, il y a tout un débat à avoir là-dessus, mais je pense qu'il est certain qu'une victoire du coréisme veut dire une rediversification de la politique extérieure de l'Équateur, un éloignement de ce bilatéralisme exclusif qu'a privilégié M. Moreno avec les États-Unis, et pas avec n'importe quel États-Unis, avec les États-Unis de M. Trump. Et il y a un certain optimisme, je dirais, dans les files du coréisme, qu'une nouvelle administration Biden, eh bien, même si ça ne va pas toujours être peut-être évident sur tous les niveaux, mais quand même donne un certain oxygène, une possibilité de négocier et de reprendre. Certainement, le message de M. Arauz n'a pas été hostile envers Biden, envers les États-Unis en général. C'est vrai qu'il y a une opportunité à ce niveau-là.
Donc l'élection présidentielle de demain, une élection à suivre. Merci Guillaume Long. Je rappelle que vous étiez avec nous par téléphone depuis l'Équateur et vous êtes analyste au Center for Economic and Policy Research, le CEPR à Washington, et ancien ministre des Affaires étrangères d'Équateur. Emmanuel Sinardet en studio avec moi, professeur de civilisation latino-américaine à l'Université Paris-Nanterre et responsable du Centre d'études équatoriennes. Et Olivier Dabène, professeur de sciences politiques à Sciences Po et chercheur au CERI et président de l'Observatoire politique Amérique latine et Caraïbes. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Je vous dis à samedi prochain car demain dimanche, place au football. À très bientôt.